À 8h41, c'est l'heure de la revue presse. Bonjour Mathilde Romagnan.
Bonjour Laetitia.
Une icône inclassable au Panthéon, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France sur la panthéonisation de Joséphine Baker.
Et c'est vrai qu'elle est inclassable. Il y a tant à dire sur Joséphine Baker qu'on ne sait pas par où commencer. La Vénus d'ébène aux mille visages, selon le quotidien, naît en 1906 dans le Missouri, dans l'Amérique de la ségrégation. Vivant dans une famille pauvre, elle doit travailler dès l'âge de 7 ans, se marie deux fois avant ses 16 ans. C'est à 19 ans qu'elle arrive en France après ses débuts à Broadway. Nous sommes en 1925. À Paris, le succès est colossal. Sa façon de danser choque autant qu'elle fascine. Sa carrière de meneuse de revue peut commencer. Mais arrive la Seconde Guerre mondiale et Joséphine Baker veut s'engager pour la France. Elle intègre la résistance et devient espionne, transmet des plans cachés dans des partitions, planque une liste d'espions nazis dans son soutien-gorge, dissimule des armes et des amis juifs au château des Milande en Dordogne. C'est là qu'après la guerre, elle élève les 12 enfants qu'elle a adoptés. Elle les appelait sa tribu arc-en-ciel. L'un d'entre eux, Brian Bouillon Baker, se souvient de sa mère dans Le Parisien. La pudeur incarnée, explique-t-il, lorsqu'il s'agissait de parler de son passé pendant la guerre ou dans le musical, quand on la voyait à la télé en soutien-gorge avec sa ceinture de banane, elle ne voulait pas reconnaître que c'était elle, raconte-t-il. Pour la cérémonie, il espère quelque chose de joyeux, festif et populaire, autant que solennel, et voudrait que la station de métro Gaîté sur la ligne 13 soit sous-titrée Joséphine Baker. Les deux mots sont totalement liés, selon lui. Pour la panthéonisation de Joséphine Baker, la date du 30 novembre n'a pas été choisie au hasard. C'est celle de son mariage avec Jean Lion, son troisième mari, qui lui permet d'obtenir la nationalité française. Sur le fronton du Panthéon, il est inscrit aux grands hommes, la patrie reconnaissante, et aux grandes femmes aussi. Joséphine Baker sera la sixième femme à entrer dans la nécropole laïque, la première femme noire. La dernière personnalité à y être entrée, c'est Simone Veil en 2018. Là aussi, tout un symbole.
Le Monde et Le Figaro remonte le temps dans deux registres très différents.
Oui, Le Figaro prend sa DeLorean pour vous emmener en 1987 pour sa série de l'été des pré-campagnes présidentielles où tout s'est joué. Il y a 34 ans, Jacques Chirac était Premier ministre, François Mitterrand président. Et pendant l'été, chacun pose ses jalons en vue de l'élection présidentielle sans pour autant se déclarer officiellement. Le quotidien raconte la rivalité entre les deux hommes, les pions qu'ils avancent l'un après l'autre sur l'échiquier. À droite, la question d'une primaire se pose, mais aussi de savoir si le FN de Jean-Marie Le Pen devrait être intégré pour une droite unie contre la gauche. À la sortie de l'été, le patron du Front National fait sa célèbre sortie sur les chambres à gaz, point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, le tribun vient de sceller son destin de diable de la République, conclut Le Figaro. Le monde, lui aussi, remonte le temps et nous emmène en 1996, l'an 1 des talibans, titre le quotidien du soir. Une double page rédigée par Bruno Philippe, ancien correspondant du Monde en Asie du Sud. Il s'est replongé dans ses souvenirs de reportages à Kaboul, à Herat ou à Kandahar. À l'arrivée des talibans au pouvoir, les Afghans sont d'abord soulagés de la fin du joug soviétique. Mais très vite s'installe la théocratie de la terreur. On vient de faire un recul en arrière de 5 siècles, affirme à l'époque un fonctionnaire des affaires étrangères. Tout comme aujourd'hui, la peur et la colère des femmes sont là. Elles ne peuvent plus travailler, les jeunes filles sont privés d'école. Les exécutions publiques sont instaurées. Le Mollah Mohamed Hassan, numéro 3 du régime, se justifie. Nous exécutons des meurtriers pour décourager d'autres gens de commettre des crimes. Le journaliste raconte qu'il a refusé d'assister à une exécution. Il explique « Je décidais de ne pas y aller, peu désireux d'être associé à un tel spectacle, tout en étant conscient de l'erreur professionnelle que cela induit. » Véritable plongée dans les mois d'octobre et de novembre 1996, l'article très détaillé permet de comprendre l'Afghanistan et ses habitants à un moment charnière de leur histoire. Toujours sur l'Afghanistan, mais vu des États-Unis cette fois, le JDD nous parle de l'amertume du sniper qui a tué Ben Laden. Une interview exclusive à New York de Robert O'Neill qui raconte l'opération menée le 2 mai 2011 au Pakistan pour éliminer celui qui est alors l'ennemi numéro un. « J'ai tiré sans l'ombre d'une hésitation », affirme l'ancien Navy SEAL de 45 ans qui estime avoir fait son devoir en pensant à ses 3000 compatriotes morts 10 ans plus tôt dans les attentats du World Trade Center. Il était persuadé, dit-il, qu'il ne rentrerait pas vivant de cette mission. Et aujourd'hui, face à la prise de pouvoir des talibans, Il éprouve un sentiment de gâchis. On leur laisse tout notre matériel, nos armes, nos blindés légers, dit-il. Et de conclure sur cette analyse sévère, ce n'est pas seulement un désastre pour les Afghans, c'est aussi un désastre pour l'avenir de la politique américaine étrangère. Un retour à la case départ au 11 septembre 2001, selon lui.
Et certains d'entre vous, à présent, vont reprendre le travail demain, après des vacances bien méritées.
Et le Parisien, aujourd'hui en France, délivre une série de conseils avant la reprise pour ne pas perdre les avantages du repos pendant les congés. Psychologues, coachs, personnels, médecins donnent leurs secrets pour un retour au boulot en douceur. Le premier, démarrer par un agenda pas trop chargé. Si on se fixe trop de contraintes, le bénéfice des vacances sera rapidement perdu, affirme la psychologue du travail Margot Bergamelli. Elle conseille de ne rien programmer les deux premiers jours à part le tri des mails. Autre préconisation, ne pas rentrer au dernier moment. Vouloir profiter des vacances jusqu'au bout serait une fausse bonne idée, car rentrer un peu plus tôt permet de retrouver le calme et les habitudes du foyer avant de repartir travailler. Et surtout, bien dormir en vacances. On a tendance à se coucher tard et à se lever tard. Pour retrouver le rythme, il faut reculer progressivement ses heures de coucher et de lever quelques jours avant la reprise. Et le week-end, évitez la grasse matinée. Il est conseillé de ne pas se lever plus de 2 heures après votre heure de réveil de la semaine. Vous imaginez pour nous, Laetitia, en matinale, ce que ça pourrait donner seulement 2 heures plus tard. Sachez-le, en tout cas, la durée de sommeil recommandée est de 7 à 9 heures pour un adulte, 8 à 10 heures pour les ados et 9 à 11 heures pour les plus chanceux, les 6-13 ans.
Voilà, je pense que si on cumule vos heures de sommeil et les miens, on doit arriver à peut-être un enfant, limite un ado.
Sûrement.
Voilà. Merci Mathilde Romagnan.